François Geffrier sur Radio Classique.
Les classiques de l'économie. Bonjour Natacha Valla.
Bonjour François.
Doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. On va parler des matières premières parce qu'il paraît qu'il y a des cycles et même des super cycles dans le monde des matières premières. De quoi s'agit-il ?
Exactement. Il y a des cycles de partout dans l'économie, des booms, des récessions. Et alors les matières premières, elles seraient soumises à des cycles qui sont beaucoup plus longs que ce qu'on connaît pour les cycles économiques traditionnels. Alors, il y a plusieurs vues qui s'opposent. Certains disent aujourd'hui... On regarde ça de près depuis que le pétrole a augmenté, depuis que l'inflation est liée à la crise énergétique. Certains, comme les banques d'investissement qui analysent les grands marchés, disent voilà, on est dans une phase où les États vont se concentrer dans leur politique sur les classes qui ont beaucoup souffert de l'inflation. Donc il y aura du soutien à la demande et ce soutien à la demande, ça va faire une demande soutenue elle aussi pour les matières premières, le pétrole, etc. Et donc, il y aura une tendance à la hausse par la force de cette demande. Inversement, et ça, les théories sont un peu plus fondées d'un peu plus long terme, on dit que voilà, il peut y avoir effectivement des phénomènes de force de la demande qui tirent à la hausse les prix. Plus on demande, plus c'est... Mais il y a aussi des phases où, avec cette demande qui augmente et qui pousse en fait les producteurs à s'adapter, eh bien, l'adaptation de l'offre, l'augmentation des capacités de production fait que, eh bien, il y a des phases qui ensuite seront plutôt baissières, ou en tout cas qui seront plutôt de stabilisation. Donc cette dynamique de, en réalité, d'investissement dans les capacités de production crée cette cyclicité, mais à un rythme qui est beaucoup plus lent que ce qu'on peut vivre, nous, avec l'augmentation et la baisse de la croissance et du chômage.
Jusqu'à aller à des super cycles, donc.
Voilà, c'est ça. Alors, les super cycles, ils sont, si on parle d'une durée de vie, c'est pas 5-6 ans comme le cycle économique traditionnel, c'est plutôt 20-30 ans. Certains même considèrent que les super cycles vont au-delà de 50 ans, 60-70 ans, justement parce que, eh bien, pour créer une nouvelle mine d'exploitation, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'investissement, il faut 4-5 ans avant que les capacités productives se mettent en place. Alors, ces choses-là, évidemment, vous allez me dire, ça évolue. On regarde, par exemple, le marché du pétrole aux États-Unis avec la révolution du
schiste. De schiste, oui.
Les choses sont allées beaucoup plus vite et effectivement, ça a créé une plus grande, ce qu'on appelle élasticité. Mais en réalité, pour beaucoup de matières premières, c'est très long. Les investissements, c'est des grosses infrastructures et ces ajustements ne sont pas forcément en adéquation en temps réel avec les besoins des marchés.
De quel super cycle donc, de matières premières on peut parler dans l'histoire?
Alors, c'est assez simple, puisque l'histoire industrielle, elle n'est pas si... Alors, on peut la faire remonter au paléolithique, mais si on la fait remonter au début du 19e siècle, on se rend compte qu'il y a eu quatre super cycles de matières premières. Au début des années 1900, avec l'industrie manufacturière qui se développe, on voit que l'automobile se développe, le transport maritime aussi. Et donc, ça utilise beaucoup, beaucoup de pétrole à l'époque, encore aujourd'hui, mais à l'époque exclusivement. Et donc, cette industrialisation essentiellement des États-Unis a créé une forte demande, une aspiration à l'utilisation des matières premières qui sont considérées comme soumises au super cycle. Ensuite, on a eu les années 30. Et là, les années 30, c'était une autre dynamique parce qu'on avait l'armement qui s'est développé jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette stratégie d'armement, on a consommé beaucoup d'acier, beaucoup de métaux. Ensuite, les années 60... le Japon et l'Europe. Donc, vous voyez bien la construction de l'histoire industrielle qui s'accompagne, en fait, d'une dynamique de prix à long terme sur les marchés. Et puis, enfin, au début des années 2000, il y a eu l'industrialisation de la Chine. Alors, on peut la faire dater d'un petit peu plus loin, d'ailleurs, mais ça, grosso modo, c'est ça, avec une aspiration des capacités productives de la planète.
Comment peut-on se placer aujourd'hui par rapport aux différents mécanismes de ces supercycles ?
Alors, c'est un petit peu aujourd'hui, ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a une certaine asymétrie. C'est-à-dire qu'on la demande s'accumule, ce qui crée une tension à la hausse des prix et des incitations aux investissements en infrastructures dont je parlais tout à l'heure. Et ces investissements étant plus longs que l'augmentation de la demande, eh bien les phases d'augmentation des prix sont un peu plus longues que les phases de baisse, j'aime pas trop dire baisse, mais ensuite de volatilité, les prix sont à la hausse, à la baisse, et de chahut un petit peu sur les marchés. Et puis, les tensions ne sont pas forcément sur les mêmes matières premières. On voit que le cuivre, par exemple, ça a été soumis à des fortes tensions. Il y a les métaux rares, bien sûr, on en parle beaucoup. Ça atteint une dimension géopolitique et géostratégique. Donc voilà, c'est un petit peu le périmètre aujourd'hui, mais c'est tout à fait d'actualité.
Les super cycles des matières premières ce matin dans les classiques de l'économie. Merci beaucoup, Natacha Valla.